Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo Banangé à la présentation.
Au sommaire de cette édition d'information, le chef d'état-major général de l'armée congolaise invite les militaires et les policiers à ne pas céder à toute manipulation pouvant les inciter à rejoindre l'ennemi. Il l'a dit ce lundi à Kinshasa au cours d'une parade mixte FRDC-PNC. Un groupe des ex-bandits urbains communément connus sous le nom de Kulunda regagne Kinshasa après 2 ans de rééducation et de formation à Kanyamakassese. Formés spécialement à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés dans la réhabilitation de plusieurs infrastructures du pays. L'invité de ce journal est John Seya Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika. Il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemi ainsi que les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. Bonsoir à tous. Ce journal part de Kinshasa avec cet appel. Vous n'avez pas le droit de trahir votre pays. Celui qui les fera les payera d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez aucun intérêt de collaborer avec l'ennemi. Ces propos sont du chef d'état-major général de l'armée congolaise ce lundi à Kinshasa au cours d'une parade mixte FRDC-PNC, tout en appelant les militaires et les policiers à dénoncer tous ceux qui cherchent à les inciter à rejoindre l'ennemi. Il a insisté sur une meilleure collaboration entre l'armée et la police dans le but de protéger la population congolaise. D'autres détails dans ces récits de Alain Irung, ici rendu par Grace Amzati.
Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, nous avons l'obligation d'honorer les tenues que nous portons. Nous devons respecter nos missions, celles de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de protéger la population et ses biens, déclare le général d'armée Christian Tshiwewe. Notre devise, c'est de ne jamais trahir le Congo. Notre père, c'est le président de la République qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Notre mère, c'est la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas trahir notre devise, souligne-t-il. Le patron de l'armée révèle que des officiers de l'armée ainsi que de la police ont été arrêtés à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Ces derniers sont à Kinshasa pour trahison, déclare-t-il. Le chef d'état-major général des FARDC insiste aussi sur la discipline en demandant aux militaires et aux policiers de se comporter en professionnels. N'entrez pas dans des conflits fonciers. Ne pas ravir des biens d'autrui, des maisons d'autrui, poursuit le général Christian Tshiwewe. Il annonce par la suite que sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un défilé militaire de soutien aux soldats déployés au front contre l'ennemi est prévu pour le 30 juin prochain. Notons que cette parade mixte s'est terminée par un défilé FARDC Police Nationale Congolaise.
Entre-temps, au Nord Kivu, les activités socio-économiques ont repris en fin de la matinée ce lundi dans le village de Turunga. C'est dans la périphérie nord de la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo. C'est après des manifestations populaires au lendemain d'un énième meurtre de civils attribué à un présumé militaire FRDC. Pendant ces temps, dans la ville de Goma, un appel à manifester contre la hausse de la criminalité interdite par l'autorité urbaine n'a été suivi d'aucun effet. Un papier de Bernardin Nyang rendu ici par Chris Mukand.
C'est autour des 10 heures locales que la circulation a été rétablie et les activités commerciales ont rouvert après des barricades placées depuis 7 heures du matin par des jeunes sur les artères principales contestant un énième meurtre d'un civil par un présumé militaire FRDC. Des sources dans le Nyiragongo affirmaient que la police et les autorités locales se sont déployées pour conscientiser les jeunes manifestants à dégager la route. Pour la ville de Goma, les activités se sont normalement déroulées ce lundi. Le maire Haï, le commissaire supérieur principal Kapen Kaman Faustin, a par un communiqué officiel partagé hier dimanche interdit une marche planifiée pour ce lundi par quelques associations et mouvements citoyens au motif de la persistance de l'insécurité dans la ville. Pour rappel, un jeune homme a été tué par 2 présumés militaires vers 19h locales hier dimanche à Turunga. Avant cela, le corps sans vie d'une femme de Goma, portant des signes d'étranglement, a été retrouvé toujours à Turunga samedi matin. Et pendant ce temps, une dizaine de personnes ont été tuées par des bandits armés dans la ville de Goma ces derniers jours. Les corps sans vie de ces victimes ont été trouvés dans plusieurs quartiers de la ville. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, les combats ont repris ce lundi matin entre les FRDC et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23. C'est notamment dans les villages Nyamubingwa, en groupement de Mufunishanga, territoire de Masisi, et vers le nord de Kikuku, en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, depuis hier, la situation reste volatile, en particulier autour de Sake. Et puis cette déclaration, quand nous entendons notre peuple parler de l'origine de nos souffrances sans fin, il nous dit globalement que tout ceci arrive parce que l'État congolais est mort et que nous les gouvernés sommes abandonnés à notre triste sort. C'est la déclaration des évêques et archevêques de la province ecclésiale de Bukavu qui regroupe les diocèses catholiques de Bukavu, Butembo, Beni, Goma, Kasongo, Kindu et Uvira. Ils l'ont dit ce week-end à Butembo, au Nord Kivu, où s'est tenue du 8 au 14 avril 2020. L'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Dans leur déclaration finale, les prélats catholiques disent que l'insécurité est devenue endémique dans la partie est du pays, avec son cortège de tueries, y compris en pleine journée, des massacres et d'enlèvements des paisibles citoyens dans plusieurs villes et villages de leurs entités. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Dans leur message final, les évêques dénoncent les tueries et les enlèvements des civils, l'encerclement de la ville de Goma par les M23 soutenus par les Rwanda, la paralysie de l'économie par une stratégie d'isolement et l'asphyxie des grandes et petites agglomérations, ainsi que l'abandon par les FRDC de leur position au front et de la logistique des guerres aux rebelles du M23 au Nord Kivu. Les prélats catholiques dénoncent également la cohabitation, voire connivence des miliciens Maïmaï Malaïka avec les FRDC et la PNC, ou encore l'existence des tribunaux forfuites, des milices à côté des parquets et tribunaux étatiques à Kasongo dans les Maniema. Selon eux, cette situation est causée, entre autres, par les faibles exercices des fonctions régaliennes de l'État et le manque de volonté politique. Les évêques recommandent au chef de l'État la mise en place rapide du gouvernement composé de personnes compétentes et honnêtes pour la gestion des affaires publiques au profit du peuple. À la communauté internationale, les prélats catholiques lancent un message fort. La RDC n'est ni à vendre ni à exploiter anarchiquement. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
À Kinshasa, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa s'est dit indignée du traitement qu'elle qualifie de dégradant réservé au cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Les faits se sont passés ce dimanche à l'aéroport d'Ndjili, où les services aéroportuaires ont refusé l'accès au salon VIP au prélat catholique, selon des sources sur place à l'aéroport d'Ndjili. Les points avec Cynthia Bachizina Bizana.
Le cardinal Ambongo se rendait à Rome ce dimanche 14 avril à midi. Étant membre du C9, le conseil de 9 cardinaux qui assistent le pape François dans son projet de réforme de l'Église. C'est alors que les services officiels aéroportuaires lui ont réservé un traitement dégradant, précise la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa dans son communiqué. Des sources sur place à Ndjili évoquent le fait que l'accès au salon VIP de l'aéroport a été refusé au prélat catholique qui a été conduit dans la salle d'attente réservée aux passagers ordinaires. Situation qui a indigné beaucoup de témoins qui ont vécu la scène. Aujourd'hui, l'Église catholique ne comprend pas cette attitude des services officiels, d'autant plus que le cardinal est détenteur d'un passeport diplomatique. Un statut reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international, précise encore le communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Sur le plan politique, la coalition Lamuka de Martin Fayulu a été la première force politique à réagir. Elle a dénoncé cet incident présenté comme un manque de respect à l'endroit du cardinal Fridolin Ambongo et met en garde contre une dérive dictatoriale dans le pays. Aucune réaction pour l'heure du côté du gouvernement congolais.
Direction Ituri, où un convoi humanitaire est tombé dans l'embuscade des miliciens de la CODECO hier dimanche vers Fataki, sur la route nationale numéro 27 dans les territoires de Djougou. Les membres de l'équipage ont été menacés de mort puis dépouillés de leurs biens sans faire des victimes, déclarent des sources de sécurité. Selon la société civile, la recrudescence de l'insécurité par des groupes armés a réduit sensiblement l'intervention des humanitaires au détriment des milliers de sinistrés des guerres dans ces territoires. D'autres ont suspendu leurs activités ou délocalisé leurs bases. Isaac Remoyopi.
Ces convois des humanitaires revenaient de certaines localités du territoire de Djougou pour faire l'identification des déplacés dans le cadre d'un projet d'assistance. Ils sont tombés dans l'embuscade d'un groupe de miliciens de la CODECO sur les tronçons Gokalou-Fataki sur la route nationale numéro 27. Ces assaillants les ont menacés de mort et puis les ont dépouillés des téléphones et de l'argent. Selon la société civile locale, les exactions des groupes armés contre les humanitaires sont récurrentes. Elle cite notamment les incendies en janvier d'un véhicule des humanitaires transportant des vivres, mais aussi les sabotages de plusieurs actions dont les pillages en mars dernier de l'hôpital de Drodro et l'attaque des sites des déplacés. Ces regains de sécurité observés depuis le début de cette année obligent certaines organisations internationales, dont Action contre la faim et Médecins sans frontières, à suspendre leurs activités dans certaines entités du territoire de Djougou. D'autres ONG ont délocalisé leurs bureaux, notamment dans les territoires voisins de Mahagi ou dans d'autres centres de Djougou qui sont sécurisés, ce qui aggrave la situation humanitaire des milliers de déplacés qui étaient déjà préoccupante faute d'assistance et d'accès aux champs occupés par des miliciens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous l'avions dit au sommaire, arrivé hier dimanche à Kinshasa d'un premier groupe sur les 1600 ex-Koulouna après 2 ans de rééducation et de formation à Kanyama-Kasese. Formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés à travers les pays pour servir la nation à travers l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux. Un groupe sera installé ici à Kinshasa dans la commune de Lancélé pour la fabrication des bancs que le service national offrira gratuitement aux écoles qui en manque et pour la réhabilitation très prochaine de l'hôpital général de Kitambo. On écoute les explications du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik dans cet extrait proposé par Alain Yurung.
Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est Lancélé. Lancélé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer des bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec les bancs fabriqués par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens, eh bien d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela, il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens.
Autre nouvelle, le syndicat national des enseignants catholiques Congo Central a restitué hier dimanche aux enseignants du Congo Central les engagements pris conformément aux assises sur la répartition selon les besoins prioritaires du montant de plus de 26 milliards repris dans les budgets déjà votés et promulgués en 2024 dans l'enveloppe rémunération des enseignants. Ces assises convoquées par les gouvernements ont eu lieu à Kinshasa au Centre international des conférences et des formations à Bibois. Selon Simon Siloulou, responsable de cette structure, 7 besoins en faveur des corps enseignants ont été identifiés, y compris ceux du Congo central. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
7 besoins ont été qualifiés de prioritaires et chaque besoin, on a voulu l'accorder un montant sur ces 26 milliards. Premier besoin, augmentation salariale. Un montant de 13 milliards a été accordé par mois aux 699 227 enseignants, dont 39 733 sont de la province du Congo central. Le deuxième besoin, réajustement de la prime de la gratuité. Un montant de 7 milliards a été affecté par mois pour les 377 350 enseignants du primaire, dont 20 786 sont au Congo central. Ce qui fait pour l'enseignant du primaire et inspecteur du primaire, il y a déjà 40 000 trouvés sur ces 26 milliards que le gouvernement a prévu dans l'enveloppe salariale des enseignants. Le quatrième besoin, nous avons trouvé paiement des enseignants non payés et de nouvelles unités. On a identifié les besoins mis en retraite. Un montant de 1 750 millions a été accordé par mois pour 500 retraités.
Dans la province du Kwilu, parlons de la décroissance de la courbe de la trypanosomiase, autrement appelée maladie du sommeil. Cependant, il y a augmentation des cas de cette maladie dans 3 zones de santé sur les 24 que compte cette province, à savoir la zone de santé de Kimputu, d'Ipamou et de Bagata. Docteur Patou Nganzobo, médecin-chef du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, qui n'a pas livré des chiffres, l'a annoncé ce lundi lors d'une séance de sensibilisation organisée organisée à l'Inco Hotel à l'intention des professionnels des médias de la ville de Bandundu. On écoute Dr Patou Nganzobo au micro de Irène Mbomaluzolo.
Dans la province de Kwilu, actuellement, la maladie du sommeil continue. Bien que nous sommes dans une courbe décroissante, mais on note même l'augmentation des cas dans certaines zones de santé, notamment la zone de santé de Kimputu, la zone de santé de Ipamu, la zone de santé de Bagata. Ce sont les trois zones de santé où la maladie du sommeil est en train d'augmenter. Contrairement à la courbe générale, il y a diminution de la maladie du sommeil. Mais ce qu'il faut toujours retenir, que la province de Kwilu continue à demeurer et à rester la championne, dans les mauvais termes bien sûr, de la maladie du sommeil dans notre pays. Donc c'est elle qui détermine la courbe épidémiologique de la maladie du sommeil, pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique et dans le monde. Un message, c'est que la population puisse participer activement aux différentes activités qui sont organisées dans la lutte, notamment avec les unités mobiles et les mini-unités mobiles qui viennent les visiter dans leur village ou dans leur quartier, mais aussi aller consulter les structures qui offrent le paquet de la maladie du sommeil.
Actualité internationale.
Le gouvernement nigérien a annoncé avoir obtenu 400 millions de dollars de son partenaire chinois au titre d'une avance sur ses ventes prochaines de pétrole brut, dont la commercialisation doit débuter en mai, ont rapporté le 13 avril 2024 les médias officiels nigériens.
L'invité.
Notre invité est John Seyakalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika. Il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemi. Il évoque aussi les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. John Seyakalunga s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur le ministre John Seyakalunga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Il y a un sérieux problème qui se passe au niveau de la prison centrale de Kalemi. Cette prison est menacée par une tête d'érosion qui s'avance dangereusement sur les murs de clôture de la prison. Et pouvez-vous nous en parler?
Certainement, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Mais nous, en tant que ministre des infrastructures, nous avions fait le travail qui est le nôtre en demandant à ce que les moyens soient mis à notre disposition pour lutter contre cette érosion. Ça veut dire que nous avions à l'époque requéri l'expertise de l'Office des routes pour faire les évaluations. Bon, Office des routes comme OVD d'ailleurs à l'époque, mais comme il était question d'intervenir pratiquement sur ces ponts, avec la petite expérience qu'on a eue dans la province avec l'Office des routes, on s'est dit bon, il faut confier le travail à l'Office des routes qui a aussi fait ces évaluations que nous avons déposé à qui des droits. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la suite pour que le travail soit fait. Mais malheureusement, plus on attend, plus les dégradations deviennent importantes et moins le devis qu'on a déposé devient obsolète. Donc, il faut le réactualiser au stade actuel.
Sur le plan technique, pouvez-vous un peu nous décrire ce qui se passe réellement là à côté de la prison?
Premièrement, il y a eu désensablement du talus et puis il y a eu effondrement de la culée du pont qui a provoqué le départ de tous les talus qui était à côté pour protéger n'est-ce pas l'ouvrage, et ça a coupé pratiquement la voie d'accès de ce pont à tel point que il était pratiquement impossible. L'ouvrage lui-même il tenait encore, mais il fallait réparer les voies d'accès et créer un mur de soutènement du talus pour éviter que l'érosion ne puisse entamer aussi bien la fosse septique qui nous avait été construite par la MONUSCO, mais aussi les murs de clôture que nous avons réparés. D'ailleurs, le gouvernement avait réparé ces murs de clôture parce que ils menaçaient de s'effondrer. Nous l'avions réparé. Alors il fallait faire tous ces travaux sur une longueur de près de 55 à 60 mètres de mur de protection pour contenir les talus. Et aussi, il fallait faire le curage de la rivière Kalemi parce qu'il y a des éléments halogènes qui gênent la circulation libre de l'eau. Mais malheureusement, tout cela nous a été difficile à cause de manque de moyens. Le problème, certes, il n'a pas commencé aujourd'hui, mais je voudrais vous rappeler que même la fosse septique, elle est terminée pratiquement en 2022. Les travaux étaient faits par la MONUSCO. Nous avions observé les problèmes qui étaient les plus urgents en son temps. C'était une partie du mur de clôture de la prison qui avait des fissures et qui menaçait pratiquement de tomber. Nous avons réparé ces murs. Au mois, je pense, octobre-novembre, nous avions prévenu pour la nécessité de curer cette rivière et contenir, disons, la rivière dans son lit. Bon, voilà, les moyens n'étaient pas mis à notre disposition. Quand il y a eu les premiers dégâts des premières pluies, nous avons prévenu également pour que nous puissions réparer, notamment en réparant la culée et remettre les remblais pour contenir les talus. Bon, les moyens n'étaient pas venus. Plus vous ne faites rien, plus les dégâts deviennent importants. Et malheureusement, c'est le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Maintenant, qu'est-ce qu'on attend encore pour commencer avec les travaux?
Bon, commencer les travaux nécessite de l'argent. Le gouvernement est sous contrôle de l'inspection générale des finances. Généralement, c'est à cela que les choses bloquent un peu. L'établissement public qui a été choisi pour élaborer les travaux avait fait son devis, qui est aujourd'hui dépassé parce que les devis ne prenaient pas en compte la construction pratiquement d'un pont, parce que le pont qui était là, il était encore en état, mais après les dernières pluies, le pont s'est affaissé d'un côté, ce qui fait qu'il faut le détruire pour jeter carrément un autre pont. Ça va nécessiter beaucoup de moyens plus que ce qu'on a envisagé.
Que craint l'IGF d'après vous par rapport au fait qu'il devrait autoriser la sortie des fonds pour entamer les travaux?
Et bon, c'est une question qui devait leur être posée. Ils sont le mieux habilités à donner la meilleure des réponses. Mais moi, je pense que nous sommes un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Peut-être qu'ils suspectent que nous risquons de prendre l'argent et partir, mais c'est irresponsable ça. Mais dans l'expédition des affaires courantes, il y a les urgences aussi qu'il faut assurer.
Monsieur le ministre John C. Akalunga, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs, mise en onde par Pierre Diassinois, sous la supervision et coordination des Alain Irung Mouchind et Jude Bilan Dankoumar. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. À vous tous, chers auditeurs, merci de l'avoir suivi.